France Culture.
Fanfare, une histoire en marche. Épisode 4, l'international des fanfares. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Benjamin Hu. Aujourd'hui, les fanfares se nourrissent de cultures étrangères, s'hybrident avec d'autres genres musicaux. Du Brésil à l'Occitanie, de l'Italie ou de la Nouvelle-Orléans à Montreuil, des rues de Hambourg au Zénith de Paris, l'esprit des fanfares transcende toutes les frontières.
Manifeste de la fanfare invisible, parce que nous vivons une ère d'inquiétude et de tristesse.
Parce que nous vivons une ère d'inquiétude et de tristesse, où la conscience de la complexité du monde nous plonge dans l'impuissance,
où le futur se révèle lourd de menaces, nous décidons de mettre en place les conditions d'une résistance joyeuse capable d'épaissir le tissu social.
Musicien confirmé ou débutant, jeune, vieux ou entre les deux, animé par l'envie de partager un projet commun de résistance, de lutte, de fête et d'échange, en solidarité musicale avec les mouvements sociaux,
nous réveillons notre capacité à agir en participant à la fanfare invisible.
En état d'alarme citoyenne, adepte de la non-violence comme stratégie d'action, Nous effectuons des attentats musicaux,
un terrorisme de la clé de sol, de la délinquance acoustique,
et nous mettons à disposition du mouvement social et des associations de lutte.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le manifeste de la fanfare invisible. Depuis 2009, elle rythme les manifs un peu partout en France. Son modèle, Ottoni Ascopio, une fanfare militante d'origine milanaise. Gilets jaunes, sans-papiers, droit au logement, journée internationale des droits des femmes, réforme des retraites ou loi travail, la fanfare invisible est de toutes les luttes.
C'est quoi l'histoire de ce morceau ?
En fait, ça, c'est un morceau sarde. Et en fait, c'est le Christ est sur la croix, il y a un paysan en bas qui se lamente et qui lui dit « Je suis tellement malheureuse, j'ai pas assez d'argent, les riches m'exploitent et tout ça. » Et le Christ lui répond « Mais tu te lamentes, mais sors les dents. Moi, si j'avais fait ça, je serais pas là où je suis. » Donc c'est un morceau qui est un peu subversif par rapport à la religion, quoi. Parce qu'on a une fanfare italienne très proche qui s'appelle Ottoni Ascopio et qui sont des gens qui nous ont beaucoup inspirés. Et voilà, on a toujours adoré ce morceau et qui s'appelle La Mala Razza.
On va commencer par le nom, Fanfare Invisible. Qui est-ce qui a eu cette idée ?
Moi, je l'avais été inspiré dans les années 2000 par un mouvement italien qui s'appelait les Tutti Bianchi et qui était adepte de la non-violence radicale active. Donc, ils étaient habillés tout en blanc, avec des bouées, avec un tas d'harnachements. Et ils allaient au contact de la police, dans des luttes qui avaient aussi pour objet de mettre en lumière les personnes qui étaient invisibilisées, les pauvres, les précaires, les sans-dents. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'une fanfare aussi puisse se mettre un peu dans ces règles-là, quoi.
Et vous partagez les mêmes idées politiques ?
Bah oui, enfin on est tous de gauche et d'extrême gauche. Maintenant, voilà, c'est pas homogène.
Mais on a un positionnement anticapitaliste, antipatriarcat, anticolonialisme, anti-impérialiste forcené. Après, il y a des familles politiques différentes et des positionnements individuels différents, anarchistes, communistes. Mais nous, on a une chance, c'est que la musique nous réunit. Aujourd'hui, il y a des grands débats. Pour catégoriser ceux qui soutiennent les Palestiniens et les Palestiniennes, par exemple, qui sont traités d'antisémites partout. Dans la fanfare, on joue un morceau palestinien et des morceaux pour montrer notre attachement contre tous les colonialismes. Mais c'est vrai aussi qu'on soutient le mouvement des squats qui est durement réprimé. Bon, on partage cette base-là qui correspond au texte qu'on a. Après, on accepte évidemment de pas être tous le même ou toutes la même. Mais au moins, on porte ces valeurs-là, ça c'est sûr.
Comment vous intégrez les nouveaux venus ?
Moi, je suis musicien, je suis militant depuis tout le temps. Puis, j'entendais dans les manifs, j'ai trouvé le répertoire sympa, la démarche sympa. Donc, je suis venu à une répétition et puis je suis resté. Les répétitions sont ouvertes. Au bout de 2-3 répétitions, on signe la charte. Il n'y a pas d'examen de passage, hein, donc voilà, tout le monde est accepté pour ce qu'il est, avec son niveau musical, son bagage, et voilà.
Mais la fanfare, quand elle a démarré, on était très mauvais musicalement. On était habité par le projet politique, par le projet collectif, et puis finalement, on s'est rendu compte ici qu'il y avait des musiciens d'un bon niveau qui rejoignaient, par intérêt aussi et engagement, et le niveau musical a évolué. Mais c'est, voilà, malgré tout, en soutien et par respect pour les groupes qu'on accompagne, on s'impose quand même du travail. Il y a une exigence musicale. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Vous êtes des nouvelles ou des anciennes de la fanfare invisible? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la rejoindre?
Bah moi j'ai comme Marc, je fais partie de ce qui était tout au début.
Moi, j'ai rejoint la fanfare il y a un an. J'en avais un peu marre de faire des manifestations en buvant des canettes de bière et en mangeant des sandwichs à la merguez. Et la fanfare, c'était vraiment le point de ralliement des potes. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que la fanfare répétait à Montreuil et que mon coloc faisait partie de la fanfare. Et c'était parti pour des manifs plus heureuses, quoi.
Et vous jouez de quoi, alors?
Moi, je joue du tuba. C'est un instrument que je jouais pas du tout avant d'arriver dans la fanfare, mais que Pascal m'a transmis et m'a appris. Et voilà, j'ai pas lâché l'instrument depuis.
Pascal, la transmission, c'est important au sein de la fanfare invisible?
Moi, je trouve ça essentiel, hein. Mais je pense que pour tout le monde, c'est essentiel, parce qu'en fait, comme c'est une fanfare ouverte, il y a tout le temps des gens qui arrivent et qui donc ont pas forcément déjà acquis tout le répertoire. Et puis aussi, on a à cœur d'accueillir des gens qui ont des niveaux super différents. Jouer en marchant, c'est pas donné tout de suite comme ça, voilà. Des fois, il y a des trous sur la route, non. Mais voilà, c'est oui, pour moi, c'est super important. Puis en plus, c'est une façon de se connaître et de jouer ensemble, quoi. Enfin, de quand on se transmet, parce que il y a la transmission du morceau, mais on s'apprend des trucs les unes aux autres aussi.
De la même manière, il y en a qui savent lire la musique, il y en a qui savent pas lire la musique.
Et comment ils font alors ceux qui savent pas lire la musique?
Ils écoutent. Et puis on se découvre effectivement dans le regard, quoi.
Si j'ai bien compris, au sein de la fanfare invisible, il n'y a pas de chef. Est-ce que ça fonctionne, ce système un peu horizontal, où finalement tout donne lieu à discussion?
L'autogestion, c'est pas le bordel malgré tout. Et on peut vérifier des endroits où effectivement c'est efficace. Je crois que l'activité qui est la nôtre le permet. Donc ça amène effectivement à la responsabilisation collective. Ça amène à se parler.
Vous pourriez me donner un exemple?
Les décisions prises sur le répertoire. Il n'est pas confié à un chef de chœur ou une chef de chœur identique à chaque fois. Les décisions de sortie, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de porte-parole. Voilà, il y a des personnes qui s'impliquent, qui s'investissent et qui sont là aujourd'hui, qui ne seront pas là demain, qui reviendront après-demain. C'est un collectif ouvert.
On peut donner quelques exemples du répertoire. Alors, il y a quoi? Il y a des morceaux comme Yaraya qui a beaucoup chanté Rachita, il y a Bella Ciao, il y en a d'autres.
Ouais, il y a un vieux fond de sauce qui est joué depuis la quinzaine d'années qu'on existe et qui permet justement aux anciens d'être présents sur les manifs. Et ce vieux fond de sauce de chants sont des chants populaires, des chants de lutte. Donc des chants qu'on a arrangés, on en a une dizaine. Donc bah, c'est Esperanza, c'est La Semaine Sanglante, c'est des chants de la commune, c'est Bella Ciao, c'est des chants voilà, qui ont une histoire dans les mouvements de lutte. Donc il y a aussi cet objectif de perpétuation de ces hymnes et de ces scansions. Il y a quelques compositions qui permettent aussi de mettre au bout du jour la pratique musicale dans l'engagement militant. Et puis, un élargissement du répertoire. Depuis qu'on existe, on a peut-être une soixantaine de morceaux. Après, le répertoire est comme le groupe, hein, un laboratoire social et un corps social mouvant, quoi. Donc il y a des morceaux qui se perdent, il y en a qui reviennent. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir comment certains morceaux arrivent rapidement dans le répertoire et d'autres, on y passe 6 mois et ça ne marche pas. Ça prend pas et ciao. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'orgueil.
Est-ce qu'il y a une place pour les solos ou c'est trop capitaliste les solos?
Alors c'est un bon débat. Moi je suis porteur de la deuxième hypothèse. Je trouve qu'effectivement dans le groupe qu'il nous représente, le solo est capitaliste, il met la lumière sur une personne alors qu'il y en a 30 qui interviennent. Donc moi personnellement je trouve que c'est pas un groupe à solo. Après il y a d'autres personnes dans le groupe qui vont effectivement avoir une position différente. On s'en amuse. Et c'est vrai que c'est des débats permanents et récurrents.
L'important de la fanfare invisible, c'est la fanfare invisible, le collectif et les valeurs qu'il porte et là où il est. Après, tout ce qui peut souligner la musique, c'est bon à prendre. Hein. Il y a des solos de percu. C'est plus anonyme un solo de percu qu'un solo. Mais ça rythme la musique aussi. Donc moi, je pense que par petite dose, ça peut être intéressant. Et puis ça peut être intéressant que ça soit partagé par des gens qui découvrent la musique aussi.
Vous faites charger par les CRS, il faut accélérer le pas et continuer à jouer ou parfois vous lâchez l'instrument ou...
En général, on essaie de discuter du placement de la fanfare dans la manif, de voir qui est d'accord, voilà, où est-ce qu'on se met, qui a pas envie d'être devant. On sait toujours pas régler parce que c'est toujours une question et puis surtout on sait jamais en fait. Il y a des fois on se dit ça va être chaud puis en fait il se passe rien. Et puis parfois, bah, comme à Sainte-Soline là... Là, on s'en prend plein la figure, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
À Sainte-Soline ? Eh ben, en fait, on était très en retrait, puis à un moment, ça avait l'air assez... Disons que ce qui pétait, c'était loin de nous. Et en fait, il y a des couettes qui sont arrivées derrière et qui ont commencé à nous canarder, quoi. Et là, ça a été la folie, là. Parce qu'il y avait des blessés, tout ça. Pas parmi nous, mais... Voilà, vous voyez des gens blessés, quoi.
Est-ce que pour vous, il y a un lien... Parce qu'il y avait cette fonction un peu des fanfares militaires qui étaient là aussi pour galvaniser un peu les troupes. Est-ce qu'elle a cette même fonction, la fanfare invisible, quand vous jouez comme ça aux côtés de mouvements sociaux ?
Ben, on est des combattants et c'est vrai qu'il faut installer un rapport de force. Donc si c'est un rapport de force qui est lié à la musique et dans le cadre d'actions non violentes actives, oui, effectivement.
Moi, j'ai découvert la fanfare pendant les manifs des Gilets jaunes. Et je crois que c'était la première fois de ma vie que je me faisais nasser et gazer. J'avais perdu tous mes potes. Et il y avait ces zinzins dans la fanfare invisible qui continuaient à jouer les stacks. Et je me souviens que c'était une espèce de moment de genre... J'étais en panique totale et j'entendais la musique. Et il y avait un truc de... Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais ils sont en train de me tirer de la crise d'angoisse absolue. À la fois, c'est ce truc qui m'a donné envie de rejoindre la fanfare invisible. Quoi, le moment où la musique... continue pendant les lacrymos, pendant le front, un petit peu le moment guerrier et effrayant. Et à la fois, après, pour l'avoir vécu en tant que fanfaronne, il y avait un truc de « bah non, en fait, je suis nassée, gazée, j'ai juste envie de me mettre en boule et de protéger mon visage et mon instrument ». Et du coup, ouais, c'est ce que disait Pascal, ça reste des questionnements qu'on se repose après chaque manif qui a un peu dégénéré, de comment ça se fait qu'on s'est retrouvé à cet endroit de la manif Est-ce qu'on en avait vraiment envie? Quelle est la place de la fanfare dans les luttes? Est-ce qu'on est en tête et on reste en tête? Est-ce que quand ça commence à sentir un peu le roussi, on se retire? Enfin, c'est des questionnements. Moi, je suis pas là depuis longtemps, mais j'ai l'impression que depuis que je suis là, en tout cas, ça revient souvent, quoi.
Tu parlais des gilets jaunes, et effectivement, bon, nous, notre habitude de fonctionnement, c'est qu'on trouve la moindre qui nous va bien et on se met derrière, quoi. Et là, au mouvement des gilets jaunes, dans cette foultitude de cortèges qui partaient en manif sauvage, à un moment donné, on se retourne, mais c'était 400 ou 500 personnes, quoi, qui trouvaient assurance et courage dans l'engagement du moment et dans cette particularité aussi revendicative.
Je pense que même pour nous, en fait, de jouer, ça fait du bien, quoi. Ça permet d'avoir moins peur, hein.
Vous avez un petit accent brésilien. Comment vous avez atterri dans la fanfare invisible ?
J'ai atterri à la fanfare invisible en 2013. J'étais dans une manif et je me suis dit, il est temps que je vienne jouer dans la rue.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que j'ai joué déjà. J'ai joué l'euphonium, mais j'avais arrêté et c'était tout de suite. Je les ai vus en manif et ils ont dit, bah, si je veux venir, je viens et je suis venu.
Et vous aimez bien aussi les idées qu'ils défendent au sein de la fanfare invisible ?
Bien sûr, bien sûr. Toujours. Je me rappelle avec une grande nostalgie mon premier butin de vote au Brésil. J'étais seul dans une petite commune où tout le monde votait à droite. J'étais là timide à voter pour Lula. Donc, sem anistia, cette année Bolsonaro vai preso, porra. voilà.
Traduisez.
Sans amnistie à Bolsonaro, il y a des choses qui se passent en ce moment au Brésil politiquement, notamment les procès de Bolsonaro, il a lié cette année. Il y a une énorme campagne pour que lui soit innocenté par rapport à ses crimes. Et il est très important que les procès puissent se dérouler et qu'il puisse être condamné par tout ce qu'il a fait.
C'est quoi votre prénom ?
João.
João. Il y a une forte tradition de carnaval aussi au Brésil.
Oui. Hein ? Chaque année, je vais là-bas avec des potes. On a monté un bloco déjà.
Ouais.
Cette année, je n'ai pas pu y aller, mais l'année prochaine, je ne rate pas.
Anaïs, musicienne, anthropologue, carnavalière.
Il y a une vingtaine d'années, Anaïs, vous avez écrit une thèse qui s'intitule « La batucada des gringos, appropriation européenne de pratiques musicales brésiliennes ». Pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet ?
Je pratiquais la musique brésilienne dans une batucada à Nice, à une époque très tendue politiquement, avec la mairie, où les artistes, les associations, les médias alternatifs, indépendants, cherchaient des locaux. Il n'y en avait pas dans la ville. Et donc, on a occupé un énorme lieu, des casernes, en fait, qu'on avait appelé les Diables Bleus. Et la batucada, qui animait les carnavals indépendants, voilà, dans lesquels j'étais, répétait là-bas. Et donc, c'est aussi pour des raisons carnavalesques, culturelles et militantes, que j'ai rencontré cette batucada et donc j'ai intégré ce groupe et nous avons joué pendant des années et mis de l'argent de côté, on était amateurs, hein, pour pouvoir se payer un voyage d'aller aux sources, non pas de retour aux sources. Donc on était 18, on est partis au Brésil, c'était vraiment quelque chose qu'on espérait depuis très longtemps. Puis en fait, arrivé là-bas, ben, j'ai rencontré plein de gringos aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'étrangers. J'ai rencontré des Français, mais aussi beaucoup de Canadiens, États-Uniens, Allemands, Anglais, Suédois, Finlandais, Japonais, qui venaient comme nous là-bas pour faire des stages, se former, enfin faire ce qu'on appelle du tourisme culturel. Et donc, je me suis intéressée à ces situations d'appropriation musicale, cet attrait pour la percussion brésilienne, il s'est d'abord manifesté à Rio. Et donc, il y a énormément de groupes de batucada qui se sont créés en France dans cette lignée du samba enredo de Rio. Donc, c'est un style de samba très, très rapide qu'on trouve notamment en période carnavalesque. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est indissociable du chant. Donc, c'est ça aussi qui est une particularité des batucada en France, c'est qu'on a d'abord assisté à une appropriation de la musique instrumentale et c'est très récemment que les batucada ont intégré du chant à leur pratique.
Quand on est de retour en France, Anaïs Vaillant, et qu'on a baigné comme ça dans cette culture brésilienne, on se retrouve hors contexte. Et du coup, comment on s'approprie cette culture de la batucada brésilienne alors qu'on est en France ?
Il y a plusieurs postures. Il y a des groupes qui sont très, ce que j'appelle, brésilianistes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment recréer quelque chose qui se rapproche vraiment du modèle brésilien, parfois même de façon très orthodoxe, par respect pour la forme originelle, on va dire. Et donc, on va être dans une appropriation musicale très fidèle, très, très sincère aussi, hein, même si on n'est pas brésilien, en maîtrisant la langue, en maîtrisant tous les codes, même les costumes, la composition des groupes, les instruments. Et c'est vrai que moi, j'ai porté attention à une autre façon de s'approprier ça, qui était plus une forme de réappropriation de ce qui faisait sens sur place. Comme par exemple ce que Massilia Sound System décrivait dans leur pratique du ragamuffin.
Les Marseillais,
qui disaient que c'est en faisant du ragamuffin et en découvrant que les Jamaïcains chantaient en patois, qu'ils se sont posé la question de leur patois à eux et que c'est comme ça qu'ils ont découvert le provençal et l'occitan. Et je pense que ce qui m'a intéressée dans mon travail de thèse, c'était forcément déjà l'attrait pour les cultures brésiliennes. Qu'est-ce qu'elles renvoyaient de notre réalité musicale en France? Donc des formes de désir inassouvi, de carence musicale, de liesse, de force collective, d'espace public, enfin voilà, toutes ces choses que les gens cherchaient dans la musique brésilienne. Et donc je me suis intéressée à ces formes de réappropriation par le biais de la batucada, de réappropriation de l'espace public, des carnavals, de l'occitan, du niçois à Nice, du languedocien ici à Montpellier, pour faire sens aussi dans cette pratique et rendre hommage aussi, de manière aussi sincère, à ce que pouvait être cette forme musicale au Brésil. C'est-à-dire dire, bah, nous, on n'est pas brésiliens. On ne va pas faire semblant d'en être, mais on va essayer d'être au plus près de ce que cette musique transmet, ré-indigénisée, on pourrait dire presque.
Après avoir officié au sein d'une batucada niçoise, Anaïs Vaillant, vous avez intégré un groupe qui s'appelle Graioli. Vous êtes parti quelques années, puis vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous a séduit dans leur proposition ?
En fait, on se connaissait d'un réseau, on va dire, de solidarité amateur. Donc de musiciens, de percussionnistes qui s'aidaient d'un carnaval à l'autre, entre Nice et Montpellier. Et à Nice, déjà, dans cette batucada qui s'appelait les Buzina Aire de Nice, on jouait de la graille. C'est un hautbois populaire, à hanche double, qui vient de Catalogne et qui est particulièrement puissant. Et ça fonctionnait plutôt bien avec une batterie, on appelle ça, une batteria, donc un ensemble composé principalement de percussions. Et ça nous a beaucoup amusé ce son. On n'en jouait pas très bien, alors bon, ça faisait un peu canard, un petit peu poète-poète au début. On s'est dit, bon, on va essayer d'apprendre à en jouer un petit peu mieux. On a voulu réintégrer du chant aussi. Et là, le chant, bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter ? Et très vite, on s'est remis à chanter des chants de carnaval.
Olivier, alias Popples, et je joue de la Tarantula Gong.
JP, alias Jean Plume, et je vais jouer du sourdeau avec un bord de sourdeau en plus.
Castagne di Para, c'est donc une cloche faite à base de végétaux.
Anaïs, je vais jouer de la caixa.
Et autre instrument un peu plus connu, le triangle.
Jean-Bernard, JB, qui joue de la graille.
Et moi, c'est Laura, je vais aussi jouer de la graille.
La graille catalane.
Comment vous les êtes appropriés, ces instruments ?
Ben, personnellement, je viens d'une formation plutôt classique. Et quand je suis arrivé à Montpellier, que j'ai un peu validé tout ce bagage du classique de conservatoire musicologie, j'ai rencontré moult gens qui venaient justement de la musique de rue, de milieu populaire. Et en fait, aujourd'hui, je vis à travers que des instruments que j'ai appris par ce biais-là. Donc la graille, j'avais un peu un bagage au niveau du chant, mais aujourd'hui, clairement, c'est pas du chant lyrique que je fais. Je fais des percussions, bendir, et tout ça, je l'ai pris sur le tas, en collectif, que ce soit dans le carnaval ou d'abord en condition groupe amateur, pour des fêtes, pour des manifestations.
Moi, comme JB, je viens du classique. Et la graille, j'ai appris clairement à en jouer dans la rue. Donc, je faisais déjà de la clarinette avant. J'ai joué de la clarinette pendant très longtemps. Donc, j'avais l'embouchure, j'avais le souffle qui était là. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Donc, c'est venu assez rapidement. Et après, j'ai délaissé complètement toute la musique savante.
Alors, moi, j'ai un bagage tout à fait autodidacte. J'ai découvert les percussions avec Carnaval. C'est des nouveaux instruments, dont les gongs qui viennent de Thaïlande. Et autrement, oui, j'ai joué de la truelle, j'ai joué du triangle, j'ai joué du pandero, j'ai joué voilà, un peu de tout ce qui tape, quoi.
Moi, j'ai commencé assez tard la musique. J'étais pas mauvais à la flûte au collège, donc du coup je me suis mis à l'instrument avant, j'ai fait du saxophone, sans prendre de cours quasiment, enfin un peu de cours d'instrument, mais pas de solfège, donc voilà, je lis pas la musique et tout ça. Et puis effectivement, nous, ça a été après avec la rue, donc je faisais pas de percussion, enfin je tapotais vite fait, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que la batucada, c'était très libérateur, parce que du coup, on se retrouve à être une vingtaine, une trentaine, à faire ce que jouerait un batteur tout seul, mais chacun a une petite partie, deux coups, qui se mélange avec deux autres coups, avec un autre coup, avec une autre sonorité. Alors au début, c'est perturbant. Moi, j'étais venu, j'ai commencé à la cloche avec un autre pote saxophoniste aussi. Et puis après, du coup, je suis passé à un poste de sourdo. Donc au début, on a du mal. Puis après, finalement, on finit par entendre cette polyrythmie. Et c'est vrai que c'est tellement libérateur, ça, que quand on a pris le virus, on ne l'a pas lâché. Et voilà, certains, ça fait 25 ans qu'on a découvert ça. Et chacun est venu, certains de la fanfare, certains des percussions, certains du chant. Et ça fait ce gloubi-boulga, là, cette aïoli avec les gens avec qui on joue, et les gens en face qui finalement ne sont pas spectateurs, sont acteurs de cette fête.
Alors, graille, comme l'instrument que vous avez fait écouter, et puis oli, j'imagine, comme l'huile d'olive.
Tout à fait, donc l'aïoli de culture par la graille catalane, qui est donc ce hautbois catalan, mais qui, comme on en parlait tout à l'heure, qui a plein de cousinages, que ce soit en Bretagne avec la bombarde, jusqu'en Inde, en Chine, le hautbois chinois qu'on retrouve à Cuba, enfin voilà, dans pas mal de cultures populaires, il y a du hautbois. Et du coup, ça nous permet de faire nos mélanges, puisqu'on chante en plusieurs langues, avec ce son trad qui peut faire penser à plein de cultures.
Relie tous au départ, c'est ce même amour de la batucada qui a évolué.
Alors oui, on vient tous de la batucada, et comme la batucada c'est très sonore, la graille, c'est avec sa force, sa diffusion aussi forte et primitive, elle permettait de passer au-dessus de tous nos instruments de batucada, et donc on avait une envie d'avoir des mélodies du monde, une musique populaire de proximité et de porter des chants. Au début, on s'est égosillé. Après, on a mis des mégaphones. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on a construit un totem à son.
C'est quoi un totem à son ?
Un totem à son, c'est une structure au départ assez primitive aussi. C'est un pied de lumière. Et en fait, il y a des micros qui descendent comme des fruits un petit peu sur leur fil. Et grâce à ça, on peut chanter sans avoir de pied dans les pattes. Et avoir les voix amplifiées. Et après, on a des gros haut-parleurs, un peu d'usine, qui sont en haut, comme des grappes, en fait, et qui diffusent le son sur le public.
Vous avez, dès le départ, commencé à jouer dans la rue. Alors, depuis, vous avez enregistré 2 albums, à 10 ans d'intervalle. La rue, ça vous apporte quoi ?
C'est vrai qu'on a commencé par le carnaval. Donc le carnaval, c'est la rue. Et c'est pas, on vient pas avoir un spectacle. On fait une fête ensemble. Et nous, on a amené la musique, d'autres ont amené des chars, des costumes, de la danse. Enfin voilà, c'est chacun qui amène ce qu'il est et partage ensemble au même niveau. Justement, avec des costumes qui fait qu'on ne sait plus qui est qui. Il n'y a pas de règles, justement, de hiérarchie, de choses comme ça. Donc au début, c'était beaucoup en déambulation, effectivement. Et puis après, on a eu envie, justement, comme on chantait pas mal, de pouvoir adresser aussi aux gens. Et des fois, en déambulation, c'est moins pratique. Donc d'avoir des moments statiques, de pouvoir entendre ce qu'on raconte, d'où les mégaphones, l'idée. Et après, effectivement, cette idée, toujours avec notre totem, là, cet arbre à son, avec un côté de porte-voix.
In Provencia, une ville tutto pleine di bravi gens.
In Provencia, une ville tutto pleine di bravi gens.
Et carnavas, nes lure magie, vous farai tutti contents.
Carnavas, nes lure magie, vous farai tutti contents.
E carnavas, es un bravo, me capartite in febbrie.
Carnavas, es un bravo, me capartite in febbrie.
Il y a un morceau, Anaïs, qui évoque très clairement le carnaval dans le premier album de Graioli.
Oui, il y en a même plusieurs. Alors, il y en a un qui est vraiment typique de Montpellier et qui pourtant est une reprise d'un morceau brésilien. C'est Cellule de déguisement.
Pas de dégrisement.
Voilà, et ça fait référence à ça justement, donc c'est un refrain qui s'adresse directement au CRS, parce que le Mardi Gras autonome de Montpellier a été régulièrement réprimé, de manière plus ou moins forte, mais quand même assez violemment parfois. Et donc Graiol a créé ce morceau presque comme une invitation à faire la fête, qu'on peut adresser désormais au CRS à chaque Mardi Gras, puisque les gens connaissent cette chanson depuis une dizaine d'années maintenant.
Sous tes jambières, sous ta visière, dans ta panoplie anti-guérilla, il y a un derrière qui sait la manière, qui sait la manière de danser la samba. Sous ton gilet, sous ton bouclier, dans tes lourdes rangers de combat, ce bon son t'appelle, tes pensées s'entremêlent, ça y est, tu sens, c'est ton cœur qui va.
Libère-toi, compagnon républicain, sécurité. Libère-toi, compagnon républicain, sécurité. Libère-toi, compagnon républicain, sécurité. Libère-toi, compagnon républicain, sécurité.
Ton pied tapote, tes fesses tremblotent, tu te demandes ce que tu as. T'oublies tes menottes, serait-ce ces notes, ton taser ne fait pas cet effet-là. Ça y est, tu danses, bientôt t'es en transe, que dirait ton chef en voyant ça? Quitte la brigade, rejoins la mascarade, carnaval t'accueille en ses bras.
Libère-toi, compagnon républicain de sécurité. Libère-toi, compagnon républicain de sécurité. Libère-toi.
Compagnon républicain de sécurité. Libère-toi, compagnon républicain de sécurité.
Voilà, donc c'est une chanson d'amour. Donc voilà, pour éviter un peu la violence, comme on dit, au lieu de se rentrer dedans, si on pouvait plutôt partager.
Après, il y a Carnavas. Mais tous, ils ont un lien à Carnaval. Enfin, le premier album s'appelle Gras, en référence à Mardi Gras. Et donc, il y a un lien tout au long du travail de Graiol, que ce soit le premier disque, mais jusqu'à aujourd'hui. Carnaval reste quand même un des fils tout le temps tiré. Et donc, il y a le morceau Carnavas, par exemple, qui est une reprise de Gianmarie Carlotti, d'Arles, et qui est un morceau voilà, carnavalesque, qui raconte une histoire invraisemblable dans des rues où Carnaval, on ne peut pas le brûler parce qu'il a trop bu, parce qu'il est trop mouillé, parce que... Donc c'est toujours voilà, un hommage aussi à cette fête qui fait beaucoup de liens entre nous depuis très longtemps, et entre nous et avec le reste du monde.
Il y a des messages politiques dans vos chants, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une connotation politique?
Sur le nouvel album, donc Rusoli, il y a donc on a repris une chanson très connue d'un bloc afro de Salvador de Bahia, Olodum. Il faut savoir qu'au départ, dans les années 70, on interdisait aux communautés afro-descendantes du Brésil de défiler à carnaval, et ils n'ont pas entendu les menaces de l'autorité public à Salvador, et ils ont défilé, ils se sont fait taper dessus, et donc il y avait des textes très politiques, et donc on a repris Revoltas, qui est Révolte de l'Odoum, et on y a rajouté des paroles françaises. On a mis un petit peu la Commune de Paris et les mouvements anarchistes en Europe.
On peut parler d'appropriation culturelle dans ce cas-là?
Il y a toujours une appropriation culturelle. Oui, on peut parler d'appropriation culturelle.
Moi je pense que c'est un peu une de nos particularités, l'appropriation. Déjà, nous-mêmes dans le groupe, on vient de partout au niveau de la France. Donc déjà, on vient avec notre bagage culturel, notre histoire. Et après, moi, par exemple, je viens du Sud-Ouest. Je ne parle pas béarnais, mais j'adore le chant occitan. Et pour autant, je vais chanter Léon Corde, qui vient de la Bosse et qui écrivait en bosseron. Et j'adore sa langue aussi. Et j'adore le créole réunionnais. Et j'adore chanter un peu à la façon du Maloya. Donc oui, on fait de la réappropriation.
C'est vrai que dans le mélange aussi d'instruments, on a aussi au niveau soufflant, on a des trompes marocaines qu'on appelle soit anafil, soit nafir ou nefar, qui servent aussi pas mal sur des cérémoniales pour un appel pendant le Ramadan, par exemple, ou qui servent aussi pour les mariages, pour rappeler justement la population au moment à venir célébrer. Du coup, on a utilisé ça, et c'est vrai que c'est pareil, les trompes, c'est un instrument très simple, très rustique, on va dire, qui donne une note, éventuellement deux, et qui amène encore une autre couleur différente aussi dans nos mélanges, donc entre la graille, les trompes aussi qui se rapprochent un peu plus de la voix, et d'un son qui va être continu aussi, qui peut amener à de la trance.
I fell in love with your body and soul, hands all sticky but my head's ice cold. Sugar tastes sour, but my salt tastes sweet. Should have laid down, but I just can't sleep. Is it your voodoo working? Is it your voodoo working? Is it your voodoo working? Voodoo working, but I can't get enough. Donc là, on se trouve devant le manche-disque. Super bar du coin. Et c'est dans ces bars où j'ai entendu la chanson « It's Your Voodoo Working » par Charles Sheffield. Ils ont une super playlist tout le temps. Et cette chanson que je connaissais pas du tout, c'est une chanson rarissime, un 45 tours d'un mec qui est disparu de la nature. Et pour l'histoire, on était dans le studio. Il nous restait une heure dans le studio pour finir des petits bouts. Et j'ai dit aux musiciens « J'aimerais bien essayer cette chanson ». Voilà, c'est très simple. On fait deux ou trois essais. Et si ça marche, super. Si ça marche pas, tant pis. Et le mec qui a écrit Charles Sheffield, en fait, il vient de Baton Rouge, qui est vraiment très proche de la Nouvelle-Orléans. Et donc, de Montreuil à la Nouvelle-Orléans, il n'y a qu'un pas. Ou qu'une pinte.
Ice on the pain. Winter is here again. It's cold, it's dark outside. Well, we're sitting here just chewing the fat again, not counting time to fly.
Élu voix de l'année aux victoires de la musique jazz en 2017, le crooner britannique Hugh Coltman enregistre dans la foulée Who's Happy, un album gorgé de cuivre qui fleurbront la Nouvelle-Orléans. Retour avec lui sur sa genèse.
En fait, je crois que le vrai moment clé, c'était quand j'étais en train de travailler pendant la tournée de mon album précédent, qui était l'album autour de Nat King Cole. Et j'étais en train de bidouiller avec la guitare, et j'avais trouvé ce riff-là. Et j'aimais bien ce riff, et ça m'a évoqué plein de trucs, en fait. Pour moi, il y a un truc un peu dans cet accord qui fait sonner un peu le marais. Il y a les trucs qui passent à côté. C'est...
Le bayou.
Ouais, et l'histoire de cette ville, elle est baignée là-dedans. Quoi. Ça, l'origine du jazz vient. Quoi. Mais pour moi, il y avait vraiment une partie dans ces harmonies et dans ce...
Mysticisme.
Mysticisme. Mais mysticisme... On partenaire avec l'espèce de fête, c'est la fête des derniers jours du monde, quoi. Ça m'a évoqué un peu une scène dans le film Down by Law de Jim Jarmusch. C'est le moment fabuleux où t'as Tom Waits qui s'est fait jeter de chez sa copine. Il erre dans la rue, un peu moitié bourré, il chante comme Tom Waits. C'est génial. Et à un moment, il s'assoit un peu au bout, quoi. Et il y a Roberto Benigni qui arrive et qui lui dit
« It's a sad and beautiful world. »
Et il y a Tom Waits qui dit « Oh, buzz off, pal.
Ah, thank you. »
Il y a une ambiance de loose dans ce truc-là, comme un fanfare de losers à 4 heures du matin qui se sont également fait jeter du bar, qui jouent un peu, qui chantent. Et il y a une joie dedans, même si c'est un peu désespéré à la fois. Et ça m'a vraiment fait penser à la Nouvelle-Orléans. Et puis, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, aller là-bas.
Well, ain't nothing I've done that gives me shame. Oh, it's the hunger in my belly is the one to blame.
Philippe Gimplovitch, évidemment, quand on pense fanfare, on pense, bon, il y a les brass bands en Angleterre, mais il y a aussi toute cette musique qui vient de outre-Atlantique, de la Nouvelle-Orléans. Mm.
En quoi elle a pu infuser comme ça toutes les musiques?
Alors, il s'avère que la Nouvelle-Orléans est une ville très musicale et où la sociabilité de quartier joue un rôle très très important. Il y a des fraternités, il y a des groupes d'immeubles, des sociétés funéraires. Chacun d'entre eux a son harmonie et sa fanfare. Et chacun d'entre eux défile, notamment le jour du Mardi Gras, très important à la Nouvelle-Orléans, et puis pour les enterrements. Qu'est-ce que l'on joue à ce moment-là? On joue les airs de la tradition des fanfares européennes. On joue des marches militaires. Il s'avère par ailleurs que dans toutes ces sociétés, il y a une question raciale qui peut se poser. À savoir que la Nouvelle-Orléans est une ville très très composite, avec une population métisse, qu'on appelle les créoles, créoles de couleur, qui est très importante, et qui, elle, est de tradition française et catholique. Cette population est musicalement très très instruite. C'est lire la musique et joue un rôle très important dans les fanfares. Et dans les années 1890, avec ces lois qui imposent la ségrégation raciale, les créoles de couleur sont considérés comme des noirs. Et sur ces fanfares arrive un mélange de noirs issus des plantations, hein, des anciens esclaves. Or, ces noirs ne lisent pas la musique. Et ils vont se retrouver sur les rangs avec les autres. Et ils vont, à partir de cette musique-là, commencer à improviser à leur manière. Et c'est ainsi que le jazz apparaît. Donc le lien entre ce monde des fanfares, qui est considéré comme anachronique, comme un peu dépassé, etc., on ignore que ce monde-là a été le creuset de la musique qui a bouleversé le XXe siècle et qui continue à être aujourd'hui très très vivante.
Hugh Coleman, quand vous avez commencé à rêver Nouvelle-Orléans, quels sont les mots qui vous sont spontanément venus à l'esprit?
Quand je suis allé à la Nouvelle-Orléans la première fois, j'étais sur une bord de route et je devais traverser la route. Et je sais qu'en certains États des États-Unis, on ne peut pas traverser sauf pour s'il y a un endroit légal pour traverser le crossing. Et donc du coup, je regarde à droite à gauche, et c'était loin des deux côtés, et je vois un mec à côté de moi qui traverse. Et je lui dis, bah, est-ce qu'on a le droit de traverser ici ou c'est aussi illégal? Et le mec, il me dit, « Man, this is New Orleans. You can do whatever the fuck you want. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. » Et je trouve que c'est un lien avec l'historique musical de cette ville. Parce que c'est le base de jazz, c'est basé dans tout. C'est basé dans le blues, c'est basé dans le mélange de Cajun, c'est basé dans le créole de Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Et tu fais ce que tu veux. Si tu veux le mélanger, ben vas-y, mélange, quoi. Je crois qu'en fait, quasi la totalité des chansons ont peut-être pris 10 points de lenteur parce que il fait tellement chaud, il fait tellement humide qu'en fait, de vivre là-dedans, tu peux pas te presser. Tu laid back, tu prends ton temps, tu laisses les choses venir à toi. Et je trouve qu'il y a certainement 3 ou 4 chansons qui sont limite méconnaissables de leur version d'origine, la version de maquette. Parce que moi, je les ai écrits ici pendant qu'il faisait 15 degrés au mieux. Et là, tu vois, il fait 40. Il fait l'humidité 120%, j'en sais rien. Mais c'est oppressant. Ce qui était insupportable.
In this town, gotta work so hard. Put breakfast on the table and gas in the car. She's working at the food mart till after 2. The kids watch too much TV, but what you gonna do? And the guy on his phone, he talks so loud.
Ma première soir, moite, humide comme ça. Je me rappelle, j'essayais de dormir, mais j'arrivais pas à dormir. Et à un moment, j'entends de loin un bruit mais incroyable. et j'avais ramené un petit enregistreur. Donc je balade en suivant ce son dans la ville, de rue en rue. Et à un moment, je tombe sur un lycée avec 300 musiciens qui répétaient un morceau de Toxic de Britney Spears. Et mais c'était incroyable parce qu'il a dû avoir 30 trompettes, 40 batteurs. Au bout d'un moment, je regardais en fascination et à un moment, il commence à bouger et il part dans les quartiers. Et c'était génial parce qu'il n'y avait pas que les musiciens. Bon, évidemment, il y a beaucoup de musiciens, mais toute la famille, tout le quartier, ça sortait, ça dansait, c'était incroyable. Et à un moment, je disais à quelqu'un, mais ouais, c'est incroyable qu'ils peuvent jouer si tard. Il dit, bah, ici, dans ces quartiers-là, ils peuvent faire ça. Dans les autres quartiers, ils n'ont pas le droit. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. C'est un son tellement puissant. Tellement puissant.
Ja, hallo, ich bin Thomas.
Bonjour, je m'appelle Thomas, du coup Meute, et je joue de la trompette.
Ja, ich bin Moi, c'est Hans Christian, et je joue aussi de la trompette.
On est ici à Paris, au Zénith, porte de la Villette, avec Meute. Bonjour, Meute.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une fanfare électro allemande, originaire de Hambourg. Vous vous êtes formé en 2015, ça fait tout juste 10 ans. On vous a découvert en France avec les Transmusicales de Rennes. Comment vous est venue l'idée de marier fanfare et techno ?
L'idée kam daher, also basierte auf dem Wunsch, etwas Neues zu machen, was es in der Form noch nicht gibt.
L'idée est venue du désir de faire quelque chose de nouveau, qui n'existait pas encore sous cette forme. Et nous avons toujours vu une certaine parenté entre la musique électronique et la musique des marching bands, que l'on ne voit peut-être pas de prime abord, mais qui devient évidente dans un second temps.
Moment wird sie eigentlich offensichtlich, wenn man zum Beispiel überlegt, dass die
dans la musique électronique, on trouve couramment des instruments tels que la grosse caisse, la caisse claire et le charleston. Parfois, on trouve aussi dans les synthétiseurs des sons préenregistrés de tuba, de cuivre ou de marimba. Donc, la techno copie la musique live et nous, nous copions la techno qui copie la musique
live.
Est-ce que ça demande une rigueur particulière de jouer ces instruments sur scène avec les beats qui courent derrière ? Du coup, parce que vous devez respecter une rythmique quasi militaire, j'ai envie de dire.
Militaire ou technoïde, vielleicht auch. Also, dass es so mechanisch, maschinell auch klingt. Also,
militaire ou technoïde, peut-être aussi. Pour que ça sonne aussi mécaniquement qu'une machine, c'est un véritable défi qui demande une bonne dose de discipline. Nous essayons donc de jouer et de répéter nos motifs musicaux aussi précisément que possible, tout en sachant que nous ne pourrons jamais égaler la machine. Et c'est cette dose d'humanité qui fait d'ailleurs tout le charme de notre musique et donne encore plus de vie à l'ensemble.
J'espère que nous sonnons de manière plus pacifiste que militaire.
Vous
Vous avez notamment emprunté un titre à Laurent Garnier et d'autres artistes, mais comme on est un peu chauvin, on va citer Laurent Garnier. Comment vous sélectionnez les titres que vous allez mettre à votre répertoire ? Est-ce que tous les titres de techno se prêtent à la fanfare ?
Ich sag mal, ein Song gewisse musikalische Parameter mit sich bringen muss, damit für uns musikalisch umzusetzen ist.
Alors une chanson doit répondre à certains paramètres musicaux pour que nous puissions la transposer musicalement. Parfois, la musique originale est trop complexe, en termes de design sonore ou en termes de durée, et d'autres morceaux sont tout à fait impossibles à jouer physiquement.
Zum Beispiel auch Ausdauer. Es ist einfach physisch nicht machbar.
Avec le temps, on a fini par affûter notre oreille et trouver des choses plus ou moins faciles à interpréter.
Für Sachen, die sich nicht so gut umsetzen lassen.
Ja, ich hätte noch also alles, was Hans gesagt hat.
Oui, je suis d'accord. Et il y a quelques morceaux qui, même si nous les jouons de manière acoustique avec notre fanfare, sonneront toujours comme de la musique électronique. Parce que ça fait partie intégrante de leur ADN et c'est ce qui les rend intéressants pour nous.
In der DNA dieser Komposition und das macht es natürlich für uns enorm interessant.
Une des particularités de Meute, c'est que vous avez marié les instruments avant, les cuivres, avec la marimba. Ça, c'est assez original quand même. C'est pas quelque chose qu'on retrouve communément dans les fanfares. Qu'est-ce que ça crée au sein de votre musique, ce mariage des deux ?
Je trouve que le marimba sonne comme un instrument électronique avec une grande amplitude musicale.
Also das Marimba bringt eine Portion Agilität und
oui, le marimba apporte une dose d'agilité et de mobilité que nous ne sommes pas non plus en mesure de mettre en œuvre avec des instruments avant. En fait, c'est le chaînon manquant qui nous permet de transposer la musique de manière adéquate. Parce que justement, les nombreuses accélérations, les sautes de notes, ce n'est pas si facile à jouer avec nos cuivres. Et c'est là que le marimba entre en scène.
Au sein de Meute, vous jouez aussi bien dans la rue que sur des toits d'immeubles et puis aussi sur des grosses scènes comme ce soir au Zénith. C'est quoi la différence ?
Also es ist auf jeden Fall anders. Auf der Straße zu spielen, das sind unsere Wurzeln, da kommen wir her und das ist so...
C'est vraiment différent. Jouer dans la rue, c'est nos racines. C'est de là que nous venons. Comme on est très proche des gens, on a une interaction immédiate avec eux et ça nous plaît beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, même lors des grands concerts, nous nous immergeons toujours dans le public à un moment donné. Nous en avons besoin, je crois.
Ins Publikum reingehen. Wir brauchen das auch für uns, glaube ich. Gleichzeitig ist es natürlich total.
En même temps, c'est très impressionnant de jouer dans une grande salle comme le Zénith, d'avoir 6000 personnes en face de nous avec une grosse sono qui amplifie tout ça. Bref, les deux ont leur charme.
Einfach da das alles noch mal verstärkt zu haben. Also, es hat beides seinen Reiz und genau. Immens von dem, was wir von den Leuten bekommen, saugen das auf und geben das zurück. Und das ist eigentlich wie so ein Ping-Pong.
Nous profitons énormément de l'énergie que les gens nous donnent. Nous l'absorbons et nous leur rendons. C'est un effet ping-pong. Et dans le meilleur des cas, ça enfle tout au long du concert et génère une extase commune.
Deswegen machen wir auch eigentlich keine Pausen, wir machen auch keine Ansagen.
D'ailleurs, c'est pour ça que nous ne faisons pas de pause, pas d'annonce ou quoi que ce soit. Nous voulons simplement ne faire qu'un grâce à la musique et fusionner avec le public. Lorsqu'on y arrive, c'est un bon concert.
C'est un bon concert.
Il y a une chose à laquelle vous prêtez particulièrement attention, j'ai l'impression, dans les morceaux que vous choisissez d'interpréter au sein de Meute, c'est qu'il y a une espèce de tension et de montée en puissance.
Oui, en effet, ça résume bien notre concept musical. Il s'agit de créer du suspense, et puis, à un moment donné, il y a cette bascule où la tension se libère. Puis, nous essayons de provoquer une nouvelle tension pour amener les spectateurs dans des endroits insoupçonnés.
La transe, vous recherchez la transe?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man das schafft, dann ist es auch ein gutes Konzert.
Oui, absolument. Donc, si on y arrive, c'est aussi un bon concert. Et je pense que nous avons aussi appris au fil des années à jouer avec ce suspense et à le faire durer volontairement beaucoup plus longtemps qu'on l'imaginait au départ.
Extrem gehen genau dazu führt eben so auch überhaupt in diese tranceartigen Zustände zu kommen.
J'ai pu lire que vous étiez investi au sein de Meute dans des projets caritatifs, que notamment vous supportiez plusieurs projets de musiciens sans frontières. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'inscrit complètement en parallèle de votre activité de groupe, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de militantisme chez Meute?
Ja, kann das ja gar nicht parallel laufen. Also das gehört auf jeden Fall zu unserer Identität.
L'un ne va pas sans l'autre. Ça fait partie de notre identité et nous trouvons cela important. Par les temps qui courent, il est fondamental d'afficher nos convictions politiques, notamment en faveur des droits de l'homme et pour la démocratie, pour la paix aussi.
Für Menschenrechte und für Demokratie und für Frieden, das versuchen wir natürlich in der Musik.
C'est ce que nous essayons de transmettre de manière non verbale dans notre musique, parallèlement à certains projets que nous soutenons.
On a l'impression que la fanfare revient un peu en force ces derniers temps en France. Est-ce que vous imaginiez que la fanfare puisse vous emmener aussi loin quand vous avez commencé Meute?
Ja, also wir haben natürlich nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir hier ein paar.
Alors bien sûr, nous ne nous attendions pas forcément à jouer un jour ici au Zénith et avoir autant de gens acheter des billets. Quand je repense à notre premier concert dans la rue à
Hambourg, unser erstes Konzert gespielt haben. Und da müssen wir uns immer wieder manchmal kneifen.
Parfois, on doit se pincer pour se rappeler notre chance.
Ja, was für ein Glück das ist.
Ja, also genau das, was Thomas sagt.
Oui, c'est exactement ce que dit Thomas. Je n'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ans. C'est totalement délirant.
Wahnsinnig, das so zu realisieren.
Alors la trompette retentira à toutes les portes de la ville. Et des oiseaux s'envoleront au bruit des fanfares. Ils voleront longtemps au-dessus de la ville. Et quand ils se poseront, déjà nous reposerons. Heureux, joyeux, le cœur contenté, dormant dans la nuit qui précédera le premier lever de soleil du bonheur retrouvé.
C'était l'International des fanfares, un documentaire de Jérôme Sandelars réalisé par Benjamin Hu. Avec Marc, Louise, Pascal et Marc de la Fanfare Invisible, Anaïs Vaillant, Olivier, JP, Greg, Jean-Bernard et Laura du groupe Graioli, Hugues Koltmann, Philippe Gimplovitch, musicologue et historien de la musique, Thomas et Hans Christian de la Fanfare Meute. À la trompette de Robert Desnos, extrait du recueil État de veille, lu par Jacques Bonafé. Prise de son, Sandrine Malon, Frédéric Thérou et Éric Boisset. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Annie Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Documentation, Annelise Signoret. Recherche INA, Sylvia Monduc. Et un grand merci à Fanny Leroy.